What is this, Connor?
Easy, easy, old man. She's not hurt?
No.
Not wounded,
sir.
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Menose fattissimo. Proprio fattissimo.
Cinéphile, amoureuse, amoureux du cinéma, mais pas que. D'Ardèche, d'hier, du futur, du multivers, bienvenue. Vous êtes sur Fréquence 7 et vous écoutez Cinémascope, le magazine du cinéma en Sud-Ardèche. Dernière séance avant l'été pour Cinémascope. Et aujourd'hui, comme toujours, je suis en très bonne compagnie avec Didier,
bonjour.
Julien et Mathieu. Bonjour.
Salut.
Et Sylvain, à la régie.
Bonjour.
Salut Sylvain. Alors aujourd'hui, on va parler de Il Bohemo, de The Flash, L'amour et les forêts et du tambour qui ressort. Mais avant ça, on va parler de... C'est l'été. On va parler de la programmation ce soir de la tournée d'été organisée par la Maison de l'Image. Et c'est Julien qui va venir, enfin, qui vient nous en parler.
Oui, bonjour, rebonjour. Alors, Cinéma sous les étoiles, c'est un événement, on va dire, sur tout l'été, on va aller dans 56 communes pour faire 75 séances avec... Oh,
tu me parles le chiffre, c'est bon.
Avec 25 films différents, donc du coup, on va voir beaucoup, beaucoup de choses. Et... Avec des séances un peu exceptionnelles, on va par exemple au Théâtre Antique d'Alba la Romaine, on fait des séances...
Oui. Au Théâtre Antique pour voir Miyazaki, c'est ça?
Voilà, alors en termes de programmation, après effectivement il y a des choses différentes. Eux, ils ont fait une programmation qui est axée, on va dire, sur l'archéologie, ça a été leur choix. Donc effectivement, on pourra voir deux Astérix, donc le dernier effectivement, et celui en animé, le Domaine des Dieux. Voilà. Et ils ont fait une autre séance avec Ted Loctad, on va dire l'explorateur, qui est lui aussi, on va dire, un ersatz animé d'Indiana Jones, qu'on pourra voir sur grand écran là-bas. Très jeune public, voilà. Et le fameux château ambulant de Miyazaki, qui est un véritable chef-d'œuvre là, dans un cadre exceptionnel. Donc on vous invite vraiment à venir sur cette séance, parce que je pense que ça sera un grand moment rare, puisque il n'y aura qu'une séance l'été.
Tu as le moment ?
Le moment, alors c'est un mercredi du mois d'août et ça va être...
Oui, c'est ça, parce que les Astérix, c'est le mercredi
23
août, mercredi 2 août. Et donc Miyazaki,
ça sera
le
23
août à Alba la Romaine.
Voilà, tout à fait.
Merci.
Et après, on va proposer comme... Voilà, l'idée, on va dire, de Cinéma sous les étoiles, c'est de réunir tout un village autour d'un film. Voilà, donc du coup, on a des films populaires qu'on espère de qualité pour proposer au public. On va en revoir Les Trois Mousquetaires, par exemple, qui va être... alors là, c'est un film qui va se prêter vraiment au plein air, parce que c'est épique. Et on va le diffuser, par exemple, au Château de Croc, donc d'Agen Estelle, on va le diffuser à Vauguet, devant le château de Vauguet, on va le diffuser également voilà, dans des lieux à La Baume, enfin voilà, il va y avoir des endroits où ça va être très chouette de voir ce film. On aura le décor qui va avec.
tu parlais de cinéma populaire, tu nous disais avant de commencer l'émission qu'il y avait aussi Le Magnifique.
Oui, alors ça c'est, on va dire, il y a Le Magnifique de Jean-Paul Belmondo, donc on va dire un chef-d'œuvre que vous n'avez sans doute jamais vu sur grand écran, et là en plein air, je pense que ça va prendre tout son sens,
tout son souffle,
avec ce personnage écrit sur une machine à écrire formidable, une espèce de, on va dire, OSS 117, il a beaucoup inspiré, je pense, OSS 117, ce personnage-là, donc. Assez génial, donc on vous invite vraiment à le découvrir. Ça sera à Saint-Maurice-d'Iby
le 8 août. 8 août. Mercredi 8 août. Et mardi 8 août. Voilà.
Et puis après, Cinéma sous les étoiles, c'est aussi l'occasion de faire un espèce de panorama sur les films de l'année qui ont marqué l'année. Et les villages, voilà, certains villages aiment bien reprendre des films comme ça qui les ont marqués. Donc on va voir L'Innocent, par exemple, qui va être présent. La Nuit du 12, qui a été le multi-césarisé de cette année. Voilà, et tout un certain nombre de films qu'on a. Hein. On a aussi... la première fiction de Gilles Perret qu'on va rejouer qui s'appelle Reprise en main, voilà, plein de films comme ça qui va nous rappeler un petit peu le côté un peu militant, hein, je veux dire, on sort un peu des retraites, ça fait du bien de voir aussi des films un peu engagés et qui montrent que le militantisme et puis l'engagement ça peut marcher des fois, donc ça c'est un film qui fait du bien, voilà. Et après, on va voir Les Petites Victoires aussi, des films comme ça, plus grand public, qu'on vous invite à découvrir.
Je verrai toujours vos visages aussi.
Voilà, les musts aussi. Voilà, il y a La Petite Bande aussi, alors qu'un film qu'on a repris, mais qui a. Alors, je vous invite vraiment à voir ce film-là, même si vous êtes âgé, vous dites c'est un film avec des enfants adolescents. Enfin voilà, c'est pas pour moi. C'est vraiment tout public et le film marche très très bien. C'est-à-dire que tous les gens qui viennent voir ce film sortent ravis. Donc du coup, c'est vraiment, et là en plein air, ça s'y prête vraiment bien. Donc c'est voilà, on a, je crois que 5 séances dans l'été. N'hésitez pas à aller voir La Petite Bande. Ça sera à L'Antillère, La Boule, Saint-Joseph-des-Bancs, Burzé et La Bégude. Donc il ne faut pas hésiter. Et puis après, on a des documentaires comme Les Gardiennes de la Planète. Voilà. Vous aimez les baleines, je pense que le film est fait pour vous. Et la nature. Voilà.
Bon, super programme. Donc tout l'été, juillet, août, Cinéma sous les étoiles.
Alors moi, je voudrais abonder dans ton sens sur La Petite Bande, qui est un film qui est sorti il y a un an, qui s'est planté commercialement. Je ne comprends pas, parce que c'est vraiment un film. Alors c'est frais, c'est très écologique en même temps. Ça fait penser à la bande des cinq ou club des cinq, on appelait ça un peu, donc une bande de gamins qui va partir dans une aventure de terrorisme écolo pour ados et en pleine nature. C'est vraiment un film, et puis en plus effectivement parfait pour le plein air.
Voilà, et puis c'est très drôle.
Ne ratez pas ça.
C'est très drôle sans être gnangnan, quoi. Du coup c'est vraiment
c'est Pierre Salvador.
Dory, donc qui est quand même un réalisateur voilà.
La Petite Bande, mais où j'étais moi quand il est sorti, en tout cas je vais aller le voir.
Nous le film a plutôt bien fonctionné, on va dire, dans zone rurale, en fait dans les villages. C'est un film à chaque fois qui a trouvé son public à ces moments là et voilà.
Ben merci Didier, merci Julien. Donc pour l'été, donc ça démarre début juillet. Tu voulais rajouter?
Ouais, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à, alors ça c'est en plein air, mais s'il pleut et que vous êtes le mardi l'été, il faut pas oublier le cinéma de Tueil qui continue sa programmation avec des nouveaux horaires. Donc c'est tous les mardis à 21h là on sort les films plus récents, voilà, c'est une autre programmation, mais vous allez pouvoir découvrir Marinette sur une joueuse de foot par exemple, et effectivement Élémentaire qui sort, enfin voilà, les classiques, etc., qui sortent en ce moment, vous pouvez les découvrir à Tueil. Donc il ne faut pas hésiter aussi à jeter un œil à la programmation de Tueil.
Ok, merci. Intérieur, extérieur, tout est bon dans le cinéma. Merci Julien. On va commencer la critique des films avec... on commence en fanfare.
Nella sfortuna a volte sia fortuna. Scriverete per la Gabrielle.
Morta mi volete!
C'è una che conosce le regole della musica e della poesia, quella sono io.
Scriverò le mie prossime opere.
Siete in pericolo, amico mio.
Sie sind ein gebildeter Ehrenhafter Mann. So können's doch nicht leben.
I gusti cambiano in Europa. Più sentimenti, più interiorità. Questo vuole nostro presente.
Avete un gran talento.
Così la nostra amicizia.
Mi sono ingannato sul mio destino.
Come maestro, sono finito.
Volcano, basta.
Basta, basta, c'est Amadeus, basta. Mais on parle d'un autre grand compositeur, Joseph Myslivecek,
je crois.
Myslivecek. Ouais. Il Bohémo de Petr Vaclav, qui avait fait Zanetta en 2014. Didier.
Oui, alors c'est un film de mémoire, puisque ce musicien, moi personnellement je ne le connaissais pas, et je crois qu'on est très nombreux à le découvrir aujourd'hui, et pourtant ça a été un compositeur très très important dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Il Bohémo, parce que c'est un Pragois, et donc c'est celui qui vient de Bohème, donc c'est pas rien à voir avec les bohémiens tels qu'on pourrait le croire à première lecture. Lorsque le film commence, nous sommes à Venise et ce musicien n'arrive pas à percer, n'arrive pas à connaître le succès, et c'est en fréquentant une femme proche du pouvoir, de la cour de l'époque, qu'il va enfin pouvoir présenter ses œuvres au public, et le succès arrive très très vite. Et alors, dans sa courte vie, il mourra à 44 ans, donc c'est pas, même pour l'époque, c'est pas très très vieux. Mais en fait, il connaîtra un très très grand succès, en particulier avec ses opéras. Il en a quand même écrit plus de 25. 85 symphonies, vous imaginez, 85 symphonies, et on parle pas des oratorios, des concertos, des pièces de musique de chambre, etc., etc., en deux ou trois dizaines d'années. Il rencontrera Mozart, donc Mozart enfant. Ils seront tous les deux impressionnés l'un par l'autre, à tel point que Mozart, le génie, s'inspirera plus tard de l'une des compositions de Myslivecek pour l'ouverture d'un de ses propres oratorios. Donc il mourra de la syphilis. Alors il faut dire que les femmes ont joué un rôle très très important dans sa vie, alors vie amoureuse bien sûr, mais vie professionnelle aussi, puisque les femmes auront toujours été un moteur pour le propulser vers le succès. Et de façon que le film n'explique pas, et que je ne m'explique pas non plus, il ne passera pas à la postérité. Il sera aussi vite oublié qu'il a été célèbre. Voilà. Alors cette histoire d'une ascension et d'une chute fulgurante, suivie de l'oubli, pour moi, est un film honorable, je dirais. Tout est bien dans le film. Les costumes sont absolument super. C'est une très belle reconstitution. Les décors, la Venise du XVIIIe siècle, c'est parfait. Les acteurs, et en particulier l'acteur principal, donc Wojtek Dyk, que je connaissais pas du tout avant, est parfait. Le scénario est intéressant, bien que là, j'ai une petite réserve. C'est-à-dire, en fait, ce sont plutôt des tableaux. Des tableaux qui vont être situés dans une époque, et puis hop, on cut et on passe directement quelquefois un an plus tard, donc il faut quand même bien suivre un peu les choses, mais bon, ça tient debout quand même. Ce qui est vraiment remarquable dans le film, si on aime la musique baroque, c'est la bande originale. Alors il y a de la musique pendant pratiquement les deux heures et quelques du film. Et je dirais presque même que la musique est pratiquement le premier personnage du film. Au passage, le film évoque aussi la condition féminine à l'époque, avec évidemment le regard qu'on peut avoir sur le miroir qu'on peut avoir avec aujourd'hui. Voilà, donc tout ça est très réussi, je trouve,
mais
c'est un peu trop sage. Je trouve que c'est un peu trop sage, un peu trop polissé.
Par parce rapport que, à la vie, justement.
Et surtout, on ne peut pas s'empêcher de penser, parce que c'est le même milieu, c'est la même époque, pratiquement, on ne peut pas s'empêcher de penser à l'Amadeus de Miloš Forman. Et là, quand même, la comparaison n'est pas au bénéfice de Il Bohémo. Voilà, ça manque un peu
de fougue,
de cette folie, parce qu'en plus, on voit bien que le personnage n'était pas simple, ses histoires amoureuses, ses rapports avec le pouvoir, etc. Tout ça reste un peu polissé, et je trouve que c'est un peu dommage que le film aurait mérité, comme tu dis, un peu plus de fougue, un peu plus d'entrain, un peu plus de folie. Ceci dit, ça reste quand même un film très 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 intéressant, et pour ceux qui s'intéressent à la musique baroque et à la musique tout court, c'est une très très belle découverte d'un compositeur j'ai trouvé, moi, en regardant et en écoutant le film, qu'il avait été complètement injustement oublié.
J'avais lu quelque part que Miloš Forman, justement, après avoir fait Amadeus, était intéressé pour faire un film.
Oui, c'était un projet, et puis le projet n'a jamais abouti. Quel dommage.
Eh bien, c'est Pietre Vaclav qui l'a fait, peut-être avec moins de fougue, mais en tout cas, qui mérite.
Ça reste quand même un film très, très intéressant.
Donc, Il Bohemo, à voir à Aubenas cette semaine, et à partir du 5 juillet, au Vivarais de Privas. On en a encore plein les oreilles et les mirettes, mais pour autre chose.
I lost my parents. That pain made me who I am. I spent a lifetime trying to right the wrongs of the past, as if fighting crime would bring my parents back. You actually did it.
The Flash de Andy Muschietti avec Ezra Miller, Sacha Kale, Michael Shannon et Michael Keaton. Un film qui dure 2h24 et la bande-annonce dure près de 3 minutes. Donc je l'ai coupé. Alors est-ce que Mathieu, toi qui l'as vu, est-ce qu'on peut se contenter de la bande-annonce qui est déjà très longue? Moi j'ai eu l'impression de voir le film avec plus de 70 rebondissements. J'étais épuisée après avoir vu la bande-annonce. Mais bon, je te laisse la main, spécialiste du super-héros de Marvel, Mathieu.
T'as dit des choses très justes, mais aussi fausses.
C'est pour ça qu'il faut toujours être accompagné.
Là, on parle bien de super-héros, donc DC Comics, de l'univers, et non pas Marvel. C'est-à-dire là, c'est l'univers de Batman qui ont été créés il y a bien longtemps sous forme de comics dans les années 60, etc. Donc, ce film était... ils ont créé un univers autour des Superman, la renaissance de Superman avec Henry Cavill, donc dans le film Man of Steel, ensuite Batman contre Superman, il me semble, et d'autres films, la Justice League, et tout ça porté par un homme qui s'appelle Zack Snyder, qui a fait par exemple 300, qui avait fait pas mal de films Watchmen, etc. Donc il fait pas que le style super-héroïque, mais... Il aime le
film à grand spectacle.
Film à grand spectacle, il a une certaine vision, une certaine noirceur dans ses films où il n'hésite pas à rentrer dedans pour sublimer ses sujets. Par exemple, il aimait, et d'ailleurs c'est quelque chose dont j'aimais beaucoup, mettre les super-héros au stade de Dieu. Voilà, comme quand on regarde un péplum ou quand on regarde quelque chose d'assez mystique, héroïque, légendaire, il aimait ça, quoi. Créer vraiment du background, mettre le super-héros au centre des croyances humaines et en faire un film, s'amuser de la pop culture du passé pour en faire quelque chose de mystique. Et c'était super intéressant. Mais Zack Snyder n'est plus là maintenant. Et il a été écarté de tout ça. Et donc, c'est Andy Muschietti qui a repris les rênes. Et donc, il va jouer avec tout le matériau de base qui a été posé depuis une décennie maintenant. Qu'est-ce qu'il en résulte? Ben, ton intro était très bonne. Alors, sur la bande-annonce, je n'ai pas vu cette bande-annonce. Mais le problème, c'est que maintenant, nous sommes dans... Je pourrais conseiller ce film pour dire que c'est un film à grand spectacle. On prend du plaisir, il y a une bonne bande-son, etc. C'est le cas. C'est un film qui ne va pas être désagréable à regarder. Mais cette mode du multivers, il faut... Le multivers, donc, pour faire un petit rappel, c'est... Dans les comics de super-héros, il existerait plusieurs mondes simultanés où les réalités seraient différentes selon les mondes. C'est à peu près ça. On aurait chaque version de nous-mêmes, chaque réalité alternative. Et donc, quand on joue avec ça, bien sûr, Retour vers le futur est cité parce qu'il y a des voyages dans le temps, etc. Eh bien, il faut faire attention à ce qu'on fait par la surenchère, par le rythme. Et très vite, comme la bande-annonce, on a envie de dire... C'est beaucoup trop. Le problème avec ces films, c'est que si le scénario il n'est pas épuré, on a un trop-plein de trop de choses avec un développement qui n'est pas assez important pour s'attacher aux choses. Et il tombe en plein dedans, c'est vraiment dommage. Parce que c'est un film qui aurait pu parler à plein de gens, avec Michael Keaton qui revient en Batman de Tim Burton. Et d'autres, hein. Il y a vraiment beaucoup de références. Je laisse quand même la surprise, parce que moi j'y suis allé pour ça. Malgré les mauvaises critiques, parce que le film est... La critique est très dure envers ce film. C'est assez justifié et parfois il surfe sur la polémique pour en faire trop, malheureusement. Mais oui, c'est un film où il y a trop de choses, où l'humour ne m'a pas vraiment dérangé, c'est assumé. Je trouvais que c'était plutôt bien écrit. Il y a plein de problèmes qui... Voilà, ça ne marche pas. On peut parler de cinéma pur avec les plans, la mise en scène, la colorimétrie, c'est criard, c'est... Les effets spéciaux sont mal finis par moments, on se demande, mais...
Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai lu un peu dans la presse, ouais. Que c'était moche.
Ben, fait. C'est moche. Il y a des moments, en fait, ils ont pris des partis pris à... Il y a des fois où Ezra Miller est dédoublé parce que, ben, il rencontre son lui alternatif. Au lieu de prendre, des fois, il y a des astuces. Alors, des fois, ça se voit qu'il l'utilise, mais il y a des astuces à filmer une personne dans la même pièce, mais... à droite, à gauche, et les faire confronter. Il y a des astuces de montage qui sont bien connues et qui sont faciles à faire. Bon, là, ils ont préféré tout doubler numériquement. Des fois, ça va très bien. Et des fois, on se dit, mais ils l'ont fait ça c'est en dernière minute, c'est pas possible. Donc, voilà, il y a ce côté dérangeant et ce côté où on se dit, quel dommage, parce que le film se tient, en fait. Il est drôle, l'histoire est intéressante, il y a des très beaux moments d'émotion. Quel dommage. Alors, je le déconseillerais pas, j'irai pas jusque-là. Je dirais juste... si vous êtes curieux de savoir un peu l'évolution des films de super-héros, et c'est quand même pas mal d'acteurs et de super-héros de notre enfance ou autre, il y a quand même Michael Keaton qui reprend son rôle de Batman, allez-y, parce que voilà, c'est un film moyen, alors qu'il aurait pu être, il aurait pu marquer le style héroïque, mais il ne l'a pas fait. Voilà.
Et c'est vraiment multi-référencé. Enfin, moi, c'est ce que j'ai cru comprendre, en tout cas, dans la bande-annonce. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas initié peut aller le voir sans être complètement perdu ?
Oui, il peut aller le voir sans être perdu, mais il aura ce côté... justement, les films qui sont venus avant The Flash étaient profonds, étaient parfois même jugés trop noirs, trop... Même, ça tirait du film noir avec Batman qui, dans la pénombre, où il perd... Il y avait beaucoup d'exploration des personnages qui étaient intéressantes, contrairement à... Ben, le style super-héros a vachement évolué et je trouvais que c'était pas mal. Là, c'est pas qu'il régresse, mais c'est qu'il reprend ses personnages approfondis pour en faire une espèce de mascarade et un amusement tout public où il ne faut pas trop réfléchir. Et donc, ces gens-là qui découvrent les super-héros avec ce film vont trouver ce film... convenable, drôle, avec une histoire intéressante, mais wow, quand ça va finir, le manège aura été intense. Voilà.
À voir à Ruyons, Aubenas, Privas cette semaine et au Quinconce de Valls à partir du 5 juillet. On va entrer dans un autre manège plein de noirceur humaine.
Je défole de lui.
Eh bien oui, je parle fort, parce que je suis heureux et j'ai envie de le crier.
Il était d'une tendresse infinie.
Oh, je t'aime. J'aime tout.
Moi aussi.
C'est plus sage d'attendre un peu. À mon âge, moi j'ai plus envie d'être sage.
Bon, t'es sûr que tu vas pas regretter de faire tout ça pour moi?
Ah, j'échange la mer contre les forêts.
Et l'amour.
Ah, l'amour. L'amour et les forêts de Valérie Donzelli, dont on a déjà dit un mot la semaine dernière dans le Cinémascope. Mais Didier, tu l'as vu et donc tu vas nous en parler.
Avec plaisir. Je peux même pas dire que c'est un film que j'ai vu avec plaisir, parce que c'est un film qui est tellement angoissant, hitchcockien, je dirais.
C'est, hein.
C'est quelque part, on est chez Hitchcock, qu'on est quand même accroché au fauteuil pendant presque toute la durée du film. Et pourtant, ça commence très bien. Ça commence très bien, puisque ça commence par une histoire d'amour absolument magnifique, enchanteresse, où tout va bien, ils sont beaux, ils s'aiment, ils n'ont aucun problème. Voilà. Mais évidemment.
C'est voilà, vraiment ça.
C'est vraiment ça. Et le terme enchanté n'est pas là par hasard, puisque. Et tout ça va perdurer pendant un certain temps, mais petit à petit, va s'installer ce qu'on appelle l'emprise. Donc c'est le nouveau film de Valeria Donzelli. Moi, c'est vrai que je suis pas un grand fan de Valeria Donzelli, dont je trouve que les films sont souvent un peu, je dirais entre guillemets, un peu parisianiste, un peu dans l'air du temps, dans les choses comme ça, alors que là, pas du tout. Là, on est vraiment sur le démontage de la mécanique de l'emprise. d'une façon, je dirais, presque parfaite. Parce que c'est vrai que quand on a, pas des proches forcément, mais quand on entend parler de ces histoires, on a tendance à dire, mais quand même, c'est un peu de leur faute à ces gens-là, quand même, ils ont qu'à se barrer, ou des choses comme ça. Et là, le film vraiment démontre parfaitement comment c'est compliqué, parce que ça n'arrive pas comme ça. Là, dans le film, ça prend des années. Des années, ça commence par des toutes petites choses, et puis c'est toujours un peu plus, et ça se termine dans quelque chose d'absolument... Ça se termine par une guerre, je dirais, parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment une guerre où il y a un dominant et un dominé, et c'est quelque part la faiblesse de la dominée qui va finir par être sa force. Et c'est là que le film est très très intéressant, parce que le film parle de l'emprise, mais parle aussi de comment on sort de l'emprise, ou comment on essaie et par quels moyens on peut y arriver. Voilà, donc le film est très... C'est un thriller, mais... Et qui dépasse, je dirais... alors c'est un film sur le couple, hein, mais je trouve que ça dépasse complètement ça. C'est surtout un film sur l'emprise. Exactement. Qu'on peut ramener sur les sectes, sur tout ce qui va, sur toutes ces personnes qui vont essayer par des moyens psychologiques et en utilisant la manipulation et le temps à prendre le pouvoir psychologique sur quelqu'un d'autre. Alors les deux acteurs principaux sont absolument formidables et ils portent le film. Donc Virginie Efira, bah, comme d'habitude, extraordinaire. Elle joue là deux rôles, puisqu'elle joue le rôle de Blanche, personnage féminin principal, et le rôle de sa sœur jumelle, Rose, qui va avoir aussi un rôle évidemment important. Et puis surtout, je dirais, Melville Poupeau, on a quand même plutôt l'habitude de voir dans des rôles de charmants garçons, enfin voilà, et qui là est un salaud, mais absolument incroyable, et il le fait absolument parfaitement. Très, très. Ce comédien, moi, que je connais depuis ses tout débuts, où il était grand ado, est en train de prendre, là, depuis 4-5 ans, vraiment une matière, quelque chose de très, très puissant. Et là, je crois que c'est son meilleur rôle depuis très longtemps. En tout cas.
Oui, tu parlais de... Il joue souvent les charmants garçons, et c'est précisément là. C'est parce que justement, il joue les séducteurs, il sait jouer les séducteurs, il est un séducteur, et ce sont les séducteurs et séductrices. Parce que là, c'est vrai qu'on parle des hommes, mais il y a aussi des femmes qui peuvent jouer ce rôle-là. Et c'est, voilà, ce sont des séductrices, séducteurs, qui finalement, à un moment donné, voilà.
Et ce qui est intéressant dans le film, c'est ça. C'est-à-dire que la notion du temps est tellement importante qu'on peut même se poser la question de la sincérité. C'est-à-dire, est-ce que c'est un plan machiavélique qui est tissé dès le premier jour, ou est-ce que c'est au fil du temps que s'installe cette emprise sur sa femme, quoi. Et ça, le film ne le dit pas, et je pense que dans la vie, c'est pareil, on ne peut pas le dire. La question est là.
Oui, la question est là. Et c'est vrai que cette notion de temps, tu l'as dit, hein, ça prend pas mal de temps pour que justement elle soit, et l'un des mécanismes qui est propre justement à ce phénomène d'emprise, c'est l'isolement.
Oui.
À ce qu'elle soit presque déportée.
Et ça arrive très vite dans le film.
Voilà, ça arrive très vite, mais elle est enceinte déjà. Donc, elle est enceinte, ou même elle a déjà un enfant, non ?
Elle a un enfant d'un autre, il me semble, oui, je sais plus ça, mais ce qui est le plus, enfin, on le dira pas, mais le fait qu'elle soit enceinte, à la limite, on peut trouver ça normal pour un jeune couple, mais on peut pas dire ce qui se passe après, mais très très vite, il y a effectivement c'est pas des tentatives, c'est une manœuvre qui réussit d'isolement par rapport à la famille, aux amis, etc., dont on apprend un peu plus tard la perversité.
C'est ça. Et qui sépare de ce monde enchanté ou enchanteur dont tu parlais. Parce que là aussi, il s'amuse. Hein. On est dans du Jacques Demy, années 60. C'est vraiment les codes du conte qui sont repris dans la première partie. Ça chante. C'est complètement déréalisé. Moi, je ne savais pas ce que j'allais voir comme film. Et quand je suis tombée là-dedans, je me suis dit, impossible de dater. Est-ce qu'on est aujourd'hui, est-ce qu'on est dans les années 60 avec les coupes à franges, ça chante, c'est pétillant,
c'est l'univers rose de l'amour. Du bonheur, exactement. Absolu.
C'est ça, ouais. D'ailleurs, moi je n'ai pas vu le film, d'ailleurs vous m'avez donné très envie, mais c'est un peu ça, c'est cette bulle quoi, cette bulle du bonheur hors du temps, du sûrement début de couple, etc., qui, est bien, qui a l'air bien représentée.
Ouais,
c'est... J'ai hâte de voir ça. Hein.
Oui, ouais. c'est presque trop. Enfin, c'est trop, ce que tu disais.
C'est le conte.
C'est presque en fait, irréel. C'est une, donc forcément, inconsciemment, nous, spectateurs, on va avoir cette idée qui s'incruste que c'est pas possible.
C'est ça.
Ouais, bien sûr. Et wow, c'est ça. Pas mal. Ça.
Et après, comme tu dis, ouais, c'est un thriller. Tu l'as dit plus élégamment que moi tout à l'heure, on ne desserre pas les fesses pendant,
oui.
pendant une heure et demie. Mais je le dis. Voilà, venant d'une femme, souvent, ça partait beaucoup mieux. Et ouais, j'avais juste une petite nuance, parce qu'on en a reparlé après, de ce film. C'est sur le doute. Ce qui m'a paru... alors, pour avoir eu beaucoup de témoignages, dans ce phénomène d'emprise, la victime en vient à douter de tout, absolument de tout, y compris d'elle-même. Et là, je trouvais que finalement, elle doutait, mais je me disais, waouh, elle s'en sort quand même super bien. Peut-être parce qu'elle a quelques bouées, notamment, elle a un boulot auquel elle peut s'accrocher.
Oui, elle s'est vraiment accrochée à ça, parce que c'est pareil, ça a été une conquête.
Ouais, effectivement, on n'en dévoilera pas trop, mais... Donc, à conseiller ce film, l'amour et les forêts.
Et c'est justement, juste pour rebondir sur ce thème du travail, ce qui est très intéressant aussi, je trouve, dans ce film, c'est le regard extérieur des autres personnes. Donc, elle est enseignante, elle a de très bons rapports avec ses collègues, et pas un ne va même soupçonner quelque part la vie qu'elle a en dehors de son travail. Et pourtant, il y a des signes.
Et pourtant, il y a une complicité. Hein, voilà, il y a une complicité avec ses collègues. Mais effectivement, très intéressant. L'amour et les forêts de Valérie Donzelli, qui est à voir à Aubenas cette semaine, au Vence également, et ce dimanche à 17h30 à Barjac, et la semaine prochaine à Privas. On termine, on a commencé... alors, pas en fanfare, mais en symphonie, et on continue en musique.
Es war einmal ein Blechtrommler, der hieß Oskar.
Oskar, du gibst mir die Trommel und ich gebe dir Schokolade.
Nein, Oskar will! Oskar. An seinem dritten Geburtstag stürzte unser kleiner Oskar die Kellertreppe runter.
Noch ein, zwei Wochen Bettruhe und dann kann das Oskarchen wieder aufstehen.
Nur wachsen wollte nicht mehr. Kein Zentimeterchen.
Non, pas un centimètre de plus. Le tambour de Volker Schlöndorff, un film de 1979 qui ressort en salle et que tu es allé voir.
Alors, je l'ai pas revu là, malheureusement, mais je vais peut-être y aller. C'est à Privas. Et là, c'est attention, chef-d'œuvre. C'est un film qui est définitivement entré dans l'histoire du cinéma. Donc, Palme d'Or en 1979, ex aequo avec Apocalypse Now. Et on comprend que ce soit difficile de dire ce sera pas toi, ce sera toi. Donc, je trouve que là, le jury, c'était plutôt une bonne idée de récompenser deux chefs-d'œuvre qui traversent le temps et qui sont là définitivement entrés dans cette histoire du cinéma. Alors, qu'est-ce que c'est que ce film ? C'est l'adaptation au cinéma de la première partie du livre de Guttenkrass, Le tambour, et qui raconte l'histoire de Oscar, qu'on entend dans le film annonce, qui a 3 ans, un petit enfant de 3 ans, dans l'Allemagne du côté de Danzig, à la fin des années 20, donc en pleine ascension du nazisme, qui est un enfant hyper intelligent et qui, à 3 ans, le jour de son anniversaire, écœuré par le monde des adultes, va décider de ne plus jamais grandir. Voilà. Et il va passer tout le reste de sa vie avec la taille d'un enfant de 3 ans, mais évidemment le mental qui évolue parce que quelque part à l'intérieur il grandit. et en compagnie de son cadeau d'anniversaire de ses 3 ans, un tambour qu'on entend aussi là, et presque d'un attribut de presque super-héros, Mathieu, c'est-à-dire sa voix, qu'on entend aussi dans le film annonce, avec laquelle il arrive à briser les vitres, enfin, tout ce qui est cristal, verre, etc. Et donc il va traverser la Deuxième Guerre mondiale, en particulier en partant avec un cirque ambulant et en faisant partie, entre guillemets, des freaks, hein, qu'on appelle à l'époque, c'est-à-dire des nains et des personnes qui ont des tares physiques. Voilà. Donc c'est un film très dérangeant. C'est un regard sur le pire de ce que l'humanité peut produire, vu à travers le regard d'un enfant surdoué. Et cet enfant surdoué, ce tambour, cet Oscar, est interprété par David Bennett, qui est absolument ahurissant, donc qui avait 12 ans à l'époque où le film a été tourné, qui avait des problèmes de croissance, et qui a un regard d'un bleu acier qu'on a vraiment rarement vu, que ce soit au cinéma ou dans la vie réelle. Et d'ailleurs, si vous cherchez des images du tambour sur Internet ou sur n'importe quoi, ce qu'on va voir, ce qui va apparaître immédiatement, c'est l'image qui apparaît partout, c'est cet Oscar, les yeux exorbités avec son tambour. Et déjà ça donne envie de voir le film, qui est en même temps difficile à évoquer, tant c'est un film incroyablement visuel, c'est une débauche de mise en scène, d'effets visuels, une grande fresque historique en même temps, de 2h45, qui ne ressemble à rien d'autre. Voilà. Et on peut rappeler que c'est le chef-d'œuvre de Volker Schlöndorff, qui quand même, par ailleurs, a fait un certain nombre de films, et on peut citer, j'avais retenu L'honneur perdu de Katharina Blum, qui est resté dans les mémoires de ceux qui l'ont vu à l'époque, Le coup de grâce, Mort d'un commis voyageur, qui est une magnifique adaptation au cinéma de la pièce de Tennessee Williams, je crois, hein, ou Miller, avec Dustin Hoffman, Les trois vies de Rita Vogt, ou un film qui était un peu moins réussi, mais qui a ouvert la voie à une série, La Servante écarlate. Voilà, donc Le tambour, à Priva. Et comme c'est la dernière émission, j'en profite pour dire aussi qu'il y a Falstaff de Orson Welles, oui, à Priva,
qui passe à Priva
cette semaine. Oui. Et que vraiment, on peut tirer un coup de chapeau au Vivarais de Priva, qui n'a de cesse que de montrer très très souvent, enfin, plusieurs fois par mois, des films de répertoire, ce qui devient de plus en plus rare sur les écrans de cinéma.
Eh bien, allez au Vivarais de Priva cet été. Et d'ailleurs, c'est la fête du cinéma du 2 au 5 juillet, non ? Ou à partir du 5 juillet ?
Enfin bref, dates, il y a début juillet.
Début juillet, du festival encore, enfin du cinéma encore et toujours. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour cette saison qu'on a passée ensemble. C'est très agréable. On se retrouve, enfin en tout cas vous retrouvez Cinémascope en septembre, probablement. D'ici là, voyez, regardez des films, amusez-vous, partagez, parlez-en. À bientôt.